Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et moi, j'avais quand même remarqué quelque chose, j'avais décelé quelque chose, c'est que j'ai senti qu'on tenait quelque chose. Je sais pas comment le dire, mais je veux dire, c'était mon concert, je chantais mes chansons et j'avais une bonne réception, un bon retour. Mais je veux dire, on vient chanter deux chansons avec les Coquettes, j'en chante 15 toute seule. Et à la fin, on me dit « Ah, super ton concert !» Et les Coquettes, vachement bien, putain, vachement bien quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui vient titiller les gens à un endroit. Tu sens, les gens viennent pour te voir, mais les Coquettes a suscité quelque chose. Et moi, je le perçois, et vous aussi les filles. On se dit, vraiment, il y a quelque chose avec les Coquettes. Alors qu'à ce moment-là, ça reste quand même un projet à côté du reste.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Bon, on est donc avec les Coquettes. Salut.
Oui, bonjour.
Salut. Bonjour, c'est très rare que j'ai trois personnes en face de moi, je suis un peu perdu.
Ouais,
ça te fait.
C'est perturbant, parce que déjà il faut refiler le... Il faut distribuer la parole, mais après j'ai cru comprendre que vous étiez vachement entraînée à parler à trois, enfin c'est un peu votre...
Oui, alors après on se marche dessus tout le temps, hein. Ouais. Ça tu vas voir, c'est... Parce que j'ai un cheveu sur mon micro, oui, que Marie m'enlève.
Merci Marie.
Je vais faire l'audio description aujourd'hui dans ce podcast.
Oui, parce que c'est un podcast, effectivement, et les gens n'ont pas la vidéo, quoi.
Eh oui, évidemment.
Juliette, Marie et Lola.
Ouais.
Voilà. Déjà, tu vois.
Déjà, t'es bon là.
C'est voilà. Très compliqué. J'ai fait une fois une interview avec deux gars qui s'appelaient Théo et Flo et j'ai passé l'heure à les confondre.
Cherche la merde aussi, Théo et Flo.
Exactement. Attends, t'entends pas beaucoup, Lola, je vais te monter un peu le son.
Aurait-elle encore la voix du matin?
C'est bien possible.
Bon, alors, donc, Juliette, Marie et Lola, vous êtes rencontrées, si je me trompe pas, en 2007?
C'est ouais. Ça. Ouais, exactement en 2007 d'ailleurs, parce que, enfin. Non, la vraie histoire, c'est que Lola et moi, nous nous sommes rencontrés en 2007 et Marie, on t'a rencontré en 2008, puisque les tout premiers castings, ouais. On s'est rencontrés sur une comédie musicale, en fait, qui s'appelait Le Soldat Rose.
Ah, génial.
Ouais.
Soldat Rose.
Et c'était d'ailleurs notre premier boulot à toutes les trois dans ce milieu-là.
Ouais.
Et ce qui est drôle, c'est que toutes les trois, on n'aurait jamais dû faire partie de cette aventure.
Pourquoi
On avait toutes les trois une bonne raison de ne pas être là.
Ouais,
finalement on a été là.
C'est-à-dire, soit vous m'en dites plus, soit pas. On a le temps.
Okay.
On est dans un podcast, on a le temps. Hein.
Alors moi, je devais pas être là parce que déjà j'étais pas du tout dans ce milieu de la comédie musicale. Je n'avais aucune raison d'aller à un casting. Mais
elle avait fait une école de jazz, tu vois, c'était une jazzeuse. Quoi.
Mais j'ai un copain qui travaillait avec moi dans un piano bar et qui est pianiste et qui accompagnait les auditions du Soldat Rose. Et il se trouve que il me dit, tu devrais venir. Je vois bien les profils de gens qui les intéressent. Je suis sûre que tu pourrais leur plaire. Et moi, je lui ai dit, non, mais une comédie musicale, tu rêves. Un, c'est pas mon métier. Et deux, faut chanter quoi? Il me dit, deux chansons en français. Ah non. J'ai dit, non. Moi, je chante une chanson à moi, une chanson en anglais. Et puis,
moi, je suis Aretha Franklin, moi, tu vas faire quoi?
Elle a fait sa Queen Bee, quoi.
C'est ça. Et donc finalement, il m'a convaincue parce qu'il m'a demandé plein de fois. Et j'y suis allée. Et puis, contre toute attente, j'ai été prise. Et j'ai adoré.
Contre toute attente de quoi?
Parce que moi, c'était pas mon milieu. J'avais jamais joué la comédie. Je me considérais pas comme comédienne.
Ah, tu te considérais comme chanteuse?
Comme chanteuse. Moi, je sortais d'école de jazz. Je chantais des standards.
Ouais. Calmez-vous.
Pas du tout.
Je ne peux pas chanter pour la plèbe.
Mais c'est pas ça. Mais c'était vraiment pas jazzeux. Mon répertoire. Saloperie. C'était vraiment pas mon répertoire. Et puis, enfin, vraiment, pour moi, comédie musicale. Bon, il y a comédie. Je suis pas comédienne. J'ai rien à foutre là-bas, quoi.
T'as pas mal progressé depuis.
Bah, j'ai bossé, hein, j'ai pris des cours et tout ça, parce que quand j'ai été prise, je me suis dit, mince, je suis pas comédienne, mais je vais devoir jouer la comédie. Vite, vite. Alors, j'ai fait des stages, des trucs, des machins, et puis après, je me suis formée. Et...
Ok. Toi, Marie, pourquoi t'étais censée pas être là?
Alors, ouais, en fait, au départ, quand il y a eu l'annonce de casting, mon premier réflexe, c'était de me dire...
Il faut que tu mettes bien ton...
Pardon, voilà. Mon premier réflexe...
Tu es chanteuse.
Ouais, tout à fait. Non, mais justement, moi, je chante un peu comme ça. Souvent, on me dit, tu peux chanter plus dans
les ingé-sons qui pètent des plombs.
C'est vrai, en plus. Donc oui, en fait, quand j'ai vu l'annonce de casting pour Soldat Rose, moi, c'était l'inverse de Lola. C'est-à-dire qu'ils cherchaient des chanteuses et j'ai fait une école, moi, pluridisciplinaire. Donc, je chante dans ce théâtre. J'ai passé mon bac. C'était fame, moi, ma life.
Ah, la classe.
Ouais, ouais.
Avec les guêtres et tout, là.
Alors non, mais un peu genre ça.
Si t'avais un collant moulant, avoue-le.
Ah, ben si, moi, quand on a rencontré la première fois que je t'ai vu, t'avais un collant multicolore avec des rayures. Genre...
Arrête.
Mais tu te souviens pas?
Oh oui, je me souviens.
Mais bien sûr, je m'en souviens très bien. Je te revois dans ton petit collant.
On a tous fait des petites erreurs. Voilà. J'ai eu un manteau désigual aussi, je tiens à le dire.
Oui, c'est vrai.
Voilà. et donc, je vois. Et moi, vraiment, mon ADN, c'est plutôt la comédie, justement. Et je vois chanteuse. Et je fais, ah non, c'est bon. Et j'ai une copine qui me dit, mais qu'est-ce que tu envoies? C'est bon. J'envoie. Et on me contacte pour les auditions. Et c'était Isabelle Nanty qui devait faire la mise en scène au départ. Et en fait, je passe les auditions et elle nous demandait de nous présenter en 5 minutes et tout ça de manière originale. Moi, c'est le truc qui m'angoisse, tu vois. Donne-moi un texte, s'il te plaît, mais me fais pas... Je me dis, bah, il faut être génial et du coup, bah, je sais pas comment faire. Et bon, voilà, j'ai pas été prise quand c'était elle. Et j'avais passé quand même 2-3 tours, quoi. Et mon agent, elle m'appelle, elle me dit, tu veux passer les castings du Soldat Rose? Je dis, non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je viens de passer 3 tours. Elle me dit, ouais, mais non, mais là, c'est Shirley et Dino qui font la mise en scène et il y a un texte et tout ça, machin. Et donc, j'y retourne.
Et mais là, c'était un autre moment, c'est ça? C'était un tout petit peu plus tard.
Okay, finalement, d'accord. Isabelle Nanty, elle faisait plus la mise en scène. Et donc là, on m'avait envoyé un texte, une chanson. Donc, les auditions, ils avaient avancé, eux, sur le dos. Et donc, voilà. Et donc, j'ai été prise.
Et là, pour le coup, toi, tu chantais pas?
Bah moi je chantais un petit peu parce que j'avais fait une école de comédie musicale, mais c'était pas mon ADN vraiment, quoi.
Toi tu préférais les leggings multicolores?
Ouais, je préférais les leggings multicolores, j'étais à fond dans la mode, quoi, tu vois.
Elle est vraiment la jazz woman, tu vois.
Mais je chantais assez en tout cas pour la chanson qui était la chanson de l'étiquette et tout, et puis après je me suis dit, bah ils m'ont prise, après c'est plus de ma responsabilité, quoi, tu
vois.
ils se démerdent
quoi, franchement.
C'est drôle. Et toi, Juliette, alors?
Eh ben alors moi, complètement différente. Moi, j'avais donc à peine 20 ans. J'étais en fac d'histoire de l'art et je chantais depuis toujours. Et je bossais à ce moment-là avec un auteur qui s'appelle Pierre-Dominique Burgot, qui se trouve être l'auteur du Soldat Rose. Parce que mon rêve, c'était d'être chanteuse. Voilà, on faisait des chansons ensemble. Et puis un jour...
Tu prenais des cours avec lui alors, c'est ça?
Non, en fait, on écrivait ensemble un projet pour moi. À côté de mes études d'histoire que je faisais un peu pour être dans la, tu vois, dans le classique, quoi, tu vois, la base. Mes parents, ils veulent que je fasse des études, puis moi-même j'avais peur de me lancer, et puis j'avais que 20 ans, quoi, donc voilà. Un jour, je me souviens très bien, j'étais en amphi en plein milieu de la journée. Il me dit, écoute Juliette, franchement, on trouve pas, viens passer le casting, quoi. J'ai dit, mais écoute, qu'est-ce que je vais foutre là-bas, puis j'ai pas ma guitare. Non, et puis il me convainc, j'y vais. Justement, ce mec-là qui accompagnait les castings, qui était pianiste, je lui ai dit, bon, écoute, moi, j'ai pas besoin de toi, va boire un coup, je prends ma guitare, je fais mon truc, je fais mon casting, et on m'appelle, on me dit, t'es prise pour le deuxième tour. Sauf que moi, j'avais 20 ans, j'étais un petit peu... Je vivotais, j'étais un peu insouciante, et à l'époque, j'avais un mec et on avait prévu de partir à Punta Cana.
Elle vivotait à Punta Cana.
Non, mais vraiment, l'histoire, mais de con, quoi. Tu vois, j'ai 20 ans, c'est l'opportunité de ma vie. Et je dis à Rabat,
deuxième tour Punta Cana.
Rabat, directeur de casting, qui m'appelle, il me dit, écoute, c'est génial, Juliette, t'es prise. Je dis, écoute, c'est génial, mais moi, je pars à Punta Cana, mec. Mes vacances ne sont pas remboursables, je m'en vais. Le mec tombe de sa chaise, il me dit, bah écoute, ok, mais bon, t'es bien consciente que si tu pars à Punta Cana, ma cocotte, on va pas te rappeler. Hein. C'est les règles, c'est pour tout le monde.
Ouais,
pas de problème. Je me casse. Je me casse à Punta Cana. Je rentre de Punta Cana et le mec m'appelle et me dit, bon, écoute, Juliette... normalement, on fait pas ça, hein, mais on n'a pas trouvé et on a envie de te revoir. Bon, bah écoute, ok, je viens, mais même pas genre en mode trop génial, merci de me donner ma chance. Genre, bon, il me rappelle, j'y vais, quoi. Et donc, j'y suis retournée et j'ai été prise. Mais je n'aurais jamais dû... Enfin, c'est quand même incroyable, une nana qui dit...
On peut donner un tips aux Juliettes de 20 ans qui sont en train d'écouter de podcast.
Ne partez pas à Punta Cana.
Le tips, c'est partez à Punta Cana, les meufs. Ça n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie.
Non, mais c'est vrai, les vacances ne sont pas remboursables. Merde, ah, après tout.
En promovacances.com, quand t'as 20 ans, 900 balles, c'est une somme, quoi, tu vois.
Mais tu te rends compte de... Enfin, tu vois, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que là, c'est un virage dans ta vie qui...
J'aurais pu ne jamais vivre tout ce que j'ai vécu après.
C'est que ce pianiste qui a la tège est devenu le père de sa fille.
Voilà.
Enfin, je veux dire, tu vois, c'est un très très gros virage, quoi. Si
non, mais vraiment, c'est l'histoire de ma vie. Enfin, je veux dire, ça conditionne toute ma vie d'après. Ouais, voilà, ma vie de famille, ma vie avec les coquettes.
Pardon, j'ai dit peut-être un truc très intime.
Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Que je trouve quand même assez incroyable.
Tout ça n'aurait pu ne jamais m'arriver. Et pourtant, bah, c'était mon destin, quoi.
C'est complètement...
C'est joli.
Non, mais c'est quand même complètement fou. Les... Moi, c'est un truc qui me fascine avec le recul, tu vois, de me dire, t'as des carrefours dans ta vie à un moment donné que prends ou que tu prends pas.
Et t'as pas conscience que peut-être tu passes à côté de ta vie quand tu prends une décision qui n'en était pas une. Moi, j'ai même pas pris de décision. J'avais 20 ans, j'étais là, ouais, allez vous faire foutre, moi je pars à Punta Cana, c'est bon.
Si, c'était une décision.
Oui, c'est, oui surtout je trouve
que... Tu te rends pas compte de l'enjeu, quoi.
C'est ça, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a aussi un truc où, à 20 ans, parfois, t'as des opportunités qui s'ouvrent à toi et t'es pas en train de te rendre compte d'à quel point c'est complètement dingue. Pour toi, c'est tellement normal, tu fais, bon, bah, ok, alors...
Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance, c'est-à-dire que presque, je pense que j'avais confiance en ce qui allait se passer, parce que j'ai pas eu peur de dire, je pars à Punta Cana, ce qui est, avec le recul, complètement dingo, quoi. Et je suis partie à Punta Cana.
Donc vous vous rencontrez sur cette comédie, donc.
Ouais.
Comment ça se passe votre... est-ce que ça fit tout de suite entre
non,
vous?
Non, pas du tout.
Ah, j'adore ça. Yes.
Franchement, on s'aime pas.
Alors vous détestez.
On se déteste pas.
Non, on se déteste pas. Attends, je commence, j'y vais.
Moi, elle va mentir.
Moi, c'était mon premier projet. J'étais très bonne élève, tu vois. J'étais à fond, j'étais concentrée, tout ça. Ça veut pas dire que vous ne l'étiez pas, mais je parle de moi, tu vois.
Allez, c'est parti.
Non, et je trouvais que Lola et Juliette, mais surtout un peu Lola, elles étaient un peu pas très sympas. Il y a quand même une des filles qui a pleuré et tout, parce qu'elles étaient pas hyper gentilles et tout ça, que j'ai dû ramener dans la loge, voire même deux filles. Bon,
on dira pas
une officielle en tout cas.
Non, mais ça il faut le dire, il y a de la compétition et de la concurrence.
Ah
en
non,
fait.
Non, moi j'étais pas là-dedans. J'étais pas
non, mais je comprends, Marie, j'étais pas en train de te mettre dans ce sac-là, mais il y a quand même de la concurrence et de la compète.
Mais il y a surtout du manque de confiance en soi, en fait. C'est notre premier projet. On commence, on connaît pas le métier. T'as fait après, calme-toi.
D'accord, mais attends, et puis moi j'étais pas hyper funky non plus, donc je lui dis.
Voilà.
Et donc, mais j'étais quand même hyper marrante. Et voilà. Et donc, Et donc, moi, je les trouvais pas hyper hyper sympa. Et je pense qu'elles me trouvaient pas hyper funky, quoi. On n'était pas sur le même.
Mais Juliette et moi, on était copines, par contre.
Et moi, j'étais un peu copine avec Juliette. Attends, tu voulais être avec moi.
Attends,
dans la chambre
un
à la
matin,
tournée.
J'arrive. Préparation de la tournée. À l'époque, on était énormément sur scène. On était 18. Il y avait des musiciens. Donc, la tournée arrivant, on devait être deux par chambre. Et un matin, j'arrive. Je dis, Marie, tu veux être dans ma chambre? Ah bah, elle m'a envoyé chier.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle est arrivée trop tard. On m'avait déjà demandé, parce que comme j'étais hyper sympa, les gens voulaient être dans la même chambre que moi.
Moi, j'avais négocié une chambre toute seule. Bim.
Ah, voilà. Tu vois, Queen Bee.
On revient encore à ce truc de moi, je fais du jazz.
Ouais. Je fais du jazz, les gars. Il me faut une chambre toute seule pour faire du jazz.
Voilà. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que je pense qu'il y a de la compétition, mais il y a aussi, et comme pour nous trois, c'était vraiment notre point commun, c'est que c'était notre premier boulot. C'est que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je parle que de moi, mais tu construis ta confiance aussi. Dans ses premiers boulots et dans ce monde dans lequel t'es lâchée. Et moi, je sais que j'étais très suiveuse parce que, en plus, en tant que comédienne, bah, t'as envie qu'on t'aime. Et puis moi, c'est mon premier boulot, j'ai envie que tout le monde m'aime, j'ai envie d'être bien avec tout le monde. Donc c'est vrai que moi, je suivais toutes les petites conneries de Lola.
Alors ça, c'est la facilité. Pardon. Je suis suiveuse. Excusez-moi.
Mais non, mais
il y avait différents groupes.
J'assume.
Tu as choisi ton groupe.
Ah ben, j'ai choisi
donc,
mon groupe, mais j'ai suivi
d'aller
mon
dans
groupe.
Un groupe dans bien lequel on était dans cette dynamique-là. C'est vrai que moi, je manquais de confiance en moi. Et c'était beaucoup plus simple d'ouvrir sa bouche un tout petit peu trop, plutôt que de se faire discrète de peur de se faire manger, parce que quand on n'a pas confiance en soi, eh ben on attaque
oui, c'est
plutôt
ça.
Que
c'est un
de
truc...
peur d'avoir à se défendre.
Je crois que c'est un truc que vous avez déconstruit par la suite, mais
évidemment,
c'est aussi un truc que les
évidemment.
Filles, on apprend aux filles à rabaisser les autres meufs plutôt qu'à faire en
alors,
sorte...
Alors rabaisser, c'est peut-être un peu fort,
enfin,
mais c'était
en tout cas
de parler plus fort que les autres histoire de pas se faire monter dessus, en fait.
Oui, c'est okay. un mécanisme de défense.
Exactement.
En fait.
Évidemment, après, on déconstruit ça, on prend confiance en soi. On recroise même les filles de cette époque et on leur dit, j'ai été un peu conne.
Non, et elles te disent, t'as été un peu conne. Et toi, tu dis, ouais, c'est vrai, désolé.
Putain.
Non, mais je l'ai dit.
Alors, attends. Je vais aller, bon, maintenant, je vais me défendre. Donc, Marie, elle était, mais chiante, quoi. Vraiment, pas marrante.
En fait, c'est trop drôle.
Non, pas marrante.
Bah, si.
Non, pas marrante.
Non, en fait, elle était focus sur le taf.
Elle était focus, ouais.
Et elle était moins dans les délires d'à côté.
Non, mais les filles, elles sortaient. Lola, elle avait un lieu qui s'appelait Le Soir. Donc, elle animait des scènes ouvertes et tout ça. Moi, incapable d'aller là-bas parce qu'il fallait chanter devant les gens. Donc, laisse tomber.
Mais c'était ton métier, non, wesh?
Ouais, j'avais pas du tout confiance en moi là-dessus.
Se sentir légitime.
Ouais, donc je sortais pas avec elle. Voilà, Lola, elle avait quelque chose de beaucoup plus libéré que moi, etc. Ouais. Après, pas marrante, ouais, n'exagère pas, hein, quand même.
Non, mais t'étais pas fun, quoi.
Non,
enfin, je veux
mais
dire,
j'étais pas dans ton délire.
Moi, j'étais pas la copine.
Ouais, on va demander aux gens de l'époque la plus fun des deux, ok.
La compétition.
Je vous vois toutes les trois, en fait, mais c'est limite, c'est pas de la mise en scène quand vous montez.
Et que vous on nous le dit souvent, on n'écrit pas
nos textes, on improvise et puis on monte sur scène deux minutes après.
Non, mais n'empêche que c'est vrai que dans l'écriture, ça se passe comme ça. Souvent, c'est des discussions et on écrit les choses en impro comme ça, quoi. On se parle, on se coupe la parole.
Pour clore ce sujet, il y a eu un événement secret, on t'en parlera.
Non, on va t'en parler. Parce que Marie, aujourd'hui, absolument, elle a envie de tout partager avec toi. Je t'en prie, mais tu vas le faire toi-même parce que tu vas mieux le faire que nous, comme c'est ton histoire.
Donc, je parle pas des appels que tu as eus récemment suite au soldat rose. Et tout ça.
Aux appels ?
Non, de genre des autres filles et tout. J'ai pas eu d'appel
récemment.
C'est gros dos qui va se balancer.
J'ai pas eu d'appel.
Audio description, elle se regarde dans les yeux.
On a des...
Ok, donc il y a eu un événement secret qu'on gardera secret.
C'est dommage parce qu'il est tellement sympa cet événement. C'est dommage qu'elle ne veuille pas le partager.
Ouais. Et donc c'est moi qui ai fait un truc qui est un peu la teon. Et en même temps, j'ai tellement assumé.
Attends, on est ici pour partager des choses.
Il n'y a personne qui écoute ce podcast.
C'est pas grand monde qui va écouter finalement. Hein. On est entre nous.
J'adore cette histoire. Et c'est donc, vraiment dommage qu'elle ne veuille pas la raconter. Ouais.
Pourquoi tu ne veux pas la raconter ?
Arrête.
Parce que c'est intime. C'est intime et donc voilà.
C'est intime ou c'est la honte, c'est pas pareil.
C'est un peu c'est intime et c'est la honte. Et en même temps, j'ai tellement assumé sur le moment, j'ai dit voilà, il s'est passé ça, c'est moi. Donc ok.
Arrête, tu commences à en dire trop là.
Et donc les meufs, elles ont fait putain.
Ah, là, elle m'a fait rire. Là, je me suis dit finalement, cette meuf est marrante.
Ouais. Mais moi, je le savais, je voulais, tu vois, je voulais être dans la même chambre que toi, mais c'était pas le bon moment. Et ce moment-là.
Ah ouais.
Ça a été le bon moment.
Il y a eu un truc.
Ça a scellé quelque chose.
L'un des succès de mes interviews, c'est que je me mets toujours en tant qu'auditeur. Ouais. D'accord ? Et là, je suis déçu.
Bah ouais.
Alors, écoute, je vais te raconter parce que j'assume.
C'est pas vrai.
Ouais. Mes petits paris vont attendre.
Je pensais jamais qu'elle allait faire. T'inquiète,
merci. Merci Marie pour ce cadeau.
On était au Casino de Paris et je vais aux toilettes. Et les toilettes se bouchent. Donc je sors, je dis bah voilà, je sais pas si c'était vraiment moi ou si quelqu'un a mis un tampon avant et qui fait que moi, par exemple, en arrivant après, ça a rajouté quelque chose.
Bah avec des si.
Voilà. Et donc, j'ai le truc, je fais, putain. Donc, t'as les toilettes qui sont à côté de la loge des meufs, tu vois. Mmh. Donc, je fais, super. Et donc, je sors,
rappelons qu'on a tous des façons très différentes de gérer son stress.
Exactement.
Exactement.
Et donc, je sors de cette loge, de ces toilettes et je dis, voilà, les toilettes sont bouchées, c'est moi. Et donc, les deux,
mais j'ai adoré en fait. J'ai trouvé ça bon, drôle évidemment sur le moment, mais surtout je me suis dit mais cette meuf, en fait elle assume quoi. Mm. Enfin je veux dire ça faisait pas longtemps.
Tu viens d'enlever ton gilet, Marie Della. Putain j'ai un petit coup de chaud.
Elle s'est très chaud.
Elle s'est soulagée d'un poids.
Ouais, c'est ça.
Mais je te jure je l'ai respectée en fait. Je me suis dit waouh parce qu'on avait fait les répètes. Bon, c'était là qu'on n'avait pas trouvé tes copines. Et là, c'était vraiment le tout début du Casino de Paris, quoi. On commençait l'exploitation. On se connaissait vraiment pas très bien, quoi, depuis un mois, quoi. Mmh. Je me suis dit, oh là là, la meuf, elle bouche les chiottes et elle assume. Bah, franchement, en fait, ça va être ma pote, elle.
Pareil.
Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose, parfois.
Une chasse d'eau.
Une histoire de caca.
Une toilette bouchée, et puis voilà.
Une histoire de caca. De caca.
Nous, on a une passion pour
c'était
ça.
C'était donc l'intime et la honte. Ouais. Voilà.
Mais en fait, je trouve que c'est pas tant la honte et c'est pas tant intime, parce qu'en vrai, on sait très bien... Encore une fois, je crois que c'est des choses qui se passent au sein des artistes, mais on a tous une façon de gérer le stress. J'ai interviewé un mec qui a fait tout un bouquin sur le trac.
Ah ouais.
Qui s'appelle Romain Le Savre. Je mettrai le lien dans les notes.
Je vais le lire.
Et il a fait tout un bouquin sur le track et il a interviewé justement plein de personnalités, que ce soit artistiques, sportives, politiques, etc.
Des gens qui parlent en public aussi, pas forcément.
Des gens qui ont géré le track en fait. Et bon, il y a souvent beaucoup du caca, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, si on faisait en sorte.
Mais avec le temps, il y en a moins.
Mais le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Hein. C'est par là que tout passe.
Tout à fait.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bon, donc vous copinez, enfin.
Ouais,
ça y est.
L'été d'après, on part en Corse, chez moi, en vacances.
Ouais. Okay.
On copine encore plus, parce que voilà, on se voit en dehors du cadre du travail, on est en vacances, c'est cool.
Est-ce que tu viens de dire que t'étais en Corse, chez moi, comme si...
C'était cool d'être Corse.
T'es Corse, quoi.
Bah ouais, je suis Corse. Ouais.
C'est soit t'es Corse, soit t'es Bretonne.
Non, mais c'est pas que je me la raconte, c'est que j'ai
après, elle est pas née là-bas.
Formidablement
plus,
belle.
Elle a jamais vécu là-bas.
Non, mais elle est, c'est une rageuse. Elle vient tous les ans depuis 15 ans et elle trouve encore le moyen de critiquer, quoi.
Je critique pas, mais je t'ai dit que je te reverrais là-bas. C'est le moment.
Elle cherche. Non, mais je suis corse, j'ai un attachement très fort à la Corse. D'ailleurs, ça a été ma première action quand les coquettes ont un petit peu fonctionné.
C'est d'acheter une maison là-bas.
Exactement.
Ou...
Donc,
pas
oui,
n'importe quelle
je
maison.
Suis corse. J'ai acheté la maison de la famille que j'ai retapée
yes.
et tout ça.
Okay.
Donc voilà. Et puis après, des plusieurs années d'amitié. Évidemment, on se recroise dans certains projets, surtout avec Marie. On retravaille ensemble dans le cadre de comédie musicale et on est potes pendant ce temps. Et puis à un moment donné, on se dit.
Il n'y a toujours pas l'idée là de dire non. Ok, on va faire un projet ensemble.
Non.
En fait, c'était un peu en mode ok, moi je veux une carrière solo quoi.
Ouais,
tu vois.
Moi j'étais beaucoup plus j'étais là-dedans. C'était mon. En fait, je m'étais dit le Soldat Rose, ça va être un tremplin. Bon, alors après, t'as des désillusions de malade. Parce qu'en fait, la vie d'intermittent, la vie d'artiste, c'est choisir une précarité constante, en fait. Tu sais jamais où tu seras le mois d'après. Moi, je vivais encore chez mes parents, donc je flambais, je dépensais tout mon fric. Et puis,
allait aux Galeries Lafayette, on s'achetait des sacs de ouf. On n'avait jamais gagné de thunes vraiment avant le Soldat Rose.
Ah ouais, c'était grisant, quoi. Et puis, un jour, tu te réveilles et tu te dis, ah ouais, donc là, la tournée, elle est finie. J'ai abandonné mes études. Je sais pas trop ce que je vais faire. Donc voilà, mais c'est vrai que j'étais dans l'optique de continuer à faire mes chansons et à ce que ça existe. Et puis, ça l'a pas fait. Mais c'est pas pour ça. En fait, si tu veux, l'idée des coquettes, elle a germé quand même assez tôt. Simplement, comme chacune, on avait nos vies. C'était quelque chose qui nous faisait plaisir en dehors de
c'était
de
un projet faisait. Parmi les autres, en fait.
Voilà.
Moi, je continuais les comédies musicales parce que c'était ce qui me faisait travailler.
Là, pour le coup, t'avais abandonné le jazz. Toi,
non, je faisais
de...
mon projet à côté. Je
okay,
faisais
d'accord.
mes chansons à côté et tout ça.
Okay.
J'ai fait un album et tout. Et j'avais les coquettes aussi, où on faisait des chansons, effectivement, pour le kiff entre copines. Mais moi, je me disais, y a plusieurs projets, c'est cool. Et puis, il y en a un, peut-être, qui verra plus le jour que les autres. Mais ça aurait pu être les comédies musicales, ça aurait pu être les coquettes, ça aurait pu être mon projet. À ce moment-là, j'avais pas vraiment d'ambition précise. J'avançais où me menait le vent et les envies, quoi, tu vois.
Mais alors, comment germe l'idée, en fait? À un moment donné, vous vous dites, tiens, c'est marrant, on marche bien toutes les trois.
Non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Juliette et Lola, elles ont fait les chœurs dans un concert de Cyril, hein, c'était ouais, ça.
Le même pianiste, tu vois, celui qui m'a dit de venir à l'audition et celui qui est le père de sa fille. Voilà.
Et celui qui a fini par composer une grande partie des chansons des coquettes après.
Ah mais c'est le même, ok, je viens de
c'est
Cyril.
Okay. Ouais. Et en fait, il y a une nana de maison de disques qui leur a dit, ah c'est marrant, vous devriez faire un groupe, et c'est elle qui a dit les coquettes. Et au départ, moi j'étais pas dans le truc, il y avait même une autre fille qui a été là assez de manière courte, quoi, tu vois, puis ça l'a pas fait. Et puis, elle cherchait une troisième meuf. Mais c'était pas une évidence au départ que ce soit moi, en fait. Et on a fait une séance photo pour un truc.
Alors, vous partiez en vacances ensemble.
Ouais.
Et en fait, de ce fait-là, toi, t'étais en train de faire tes trucs dans ta vie, c'est
ouais,
ça?
Ouais, moi, je faisais mes autres trucs et tout ça.
Non, mais c'est surtout que nous, on cherchait une fille qui avait une voix grave. Parce que Juliette, elle a une voix hyper aiguë. Moi, j'ai une voix plutôt dans les médiums.
Ah,
et
oui.
Nous, on cherchait une fille avec la voix grave. Et en plus, on cherchait... bizarrement, une fille qui physiquement était hyper différente de nous, ce qui est le cas de Marie, mais à l'époque ça ne nous apparaissait pas.
Non, au départ elle cherchait
une Renoir. On avait envie d'aller dans la diversité.
Et puis moi j'étais même pas en mode il y a une place, je vais essayer de la prendre. J'aimais même pas quoi.
Enfin, dans ta tête, c'est pas passé.
En fait, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte là que, en fait, au début du projet des coquettes, on a voulu plaire. On a encore voulu qu'on nous aime. On nous a dit, il y a cette nana qui nous a dit, vous devriez faire un truc, les coquettes, machin. Elle nous a tout de suite mis en contact avec une grosse maison de disques. Et eux, en fait, ils voulaient créer un truc qui n'existait pas, un trio 60s, un peu Motown, machin. Et nous, on s'est dit, attends, on nous demande, vas-y, on va faire un truc, faut qu'on nous aime, quoi.
Bon, moi, j'étais pas très chaude pour ça, ça me plaisait pas du tout.
Ouais, mais en fait, on était tellement dans ce truc de, on a une toute petite porte qui s'ouvre à nous, on va y aller à fond. Et en fait, ça ne marche pas, parce que c'est pas foncièrement ce qu'on voulait. Et en fait, ça a capoté. Et c'est à ce moment-là que avec Marie, on lui a proposé de faire partie
alors
du groupe.
Alors non, parce que raconte, on a en fait, moi, je travaillais dans un piano bar où je chantais, j'animais des soirées, je programmais des concerts. Et en fait, on a eu besoin de faire une séance photo pour la promotion de ce piano bar. Donc,
elles nous ont dit, ouais, il faut appeler une fille très belle, tu vois.
Pas
donc
du tout.
Ont
on
pensé
s'est
à moi.
On va demander à nos potes qui sont capables de venir gratos. Et donc, on s'est retrouvés à faire des photos.
Vous êtes tellement vache, Anthony.
C'est
beaucoup.
Que de l'amour.
Oui.
À faire cette séance photo. Et en fait, on était toutes un peu lookées et tout. Et quand on a vu les photos avec Juliette, on s'est dit, purée, ça marche de ouf. C'est comme si ça a été une révélation. On s'est dit, mais visuellement, ça marche de ouf toutes les trois. Et puis, attends, mais en fait, c'est notre super pote, Marie. Et pourquoi on n'a jamais pensé à elle, en fait? Alors après, on s'est dit, mais mince, il y a ce truc de la voix. Est-ce que ça va matcher? Parce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui fait les graves. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Et est-ce que ça va lui plaire? Alors que Marie, elle a plutôt une voix de nature aiguë, d'aller chercher quelque chose dans les graves et tout. Donc, on a pris rendez-vous.
Ouais, on s'est dit, d'ailleurs, on était vraiment, elles avaient besoin de voir. Et moi aussi, j'avais besoin de voir, en fait, parce que, elle venait de se séparer de quelqu'un. Donc, moi, je voulais que tout le monde soit sûr, en fait. Mmh. Elle, comme moi.
Et puis surtout, on voulait toutes être sûres que ça marche, que ça fonctionne techniquement.
Voilà.
Donc, on a pris le temps, on était allé en studio.
Fait un essai. Non, on n'était pas en studio, on était chez Cyril.
Ouais, mais
on
c'était a fait un home studio, quoi.
Ouais, home studio.
on n'avait pas de thunes, les gars.
Et on a pris le temps et tout. Et ben, voilà. Il n'y a pas de suspense puisque je suis là.
Oui, et puis ça aussi, à l'époque, les coquettes, c'était un projet musical. Hein. Donc, à l'époque, il n'y avait pas cette identité-là qu'il y a aujourd'hui d'un projet hybride. C'était vraiment des chansons. Et puis après, on a continué un peu avec Marie à faire des chansons. Et à un moment donné, il a bien fallu aller sur scène. Et à ce moment-là, Marie et moi, on était un peu hésitantes. Mais oui, Marie et moi, on était un peu hésitantes. On ne se sentait jamais vraiment tout à fait prêtes. Encore ces problèmes de confiance. Juliette, pour le coup, elle a dit à un moment donné, faut y aller, quoi.
Donc on s'est mis une date.
Ok.
Et tout n'était pas prêt. Hein.
Pas
on s'est dit, en fait, si on prend pas de date, on fera jamais.
On allait quoi, 40 minutes enfin.
Sur la vouloir la perfection avant que ça existe. En fait, on s'est dit, on prend une date. Et puis ça sera pas parfait, mais au moins ça va exister.
Et là, on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on va faire entre les chansons?
Parce qu'on est trois. Faut bien qu'on se partage la parole. Comment on fait? C'est pas comme dans un concert où tu fais tes chansons et au milieu, tu te dis à peu près ce que tu vas dire, mais tu t'offres la chance d'être naturel et de. Bah là, on est trois. Si chacune, on part dans nos trucs, qu'est-ce qu'on. C'est le bordel, quoi.
Donc on commence à se dire, bah tiens, on va dire des petits trucs et tout ça. Voilà, ça commence à prendre forme un peu.
Et puis
musique,
comme on a un peu envie d'être marrante. On se dit, on se le dit pas, mais entre nous, on se fait marrer, donc on dit des trucs pour se faire marrer, puis ça marche, on les garde.
Ouais. Et puis aussi, nos chansons, elles étaient déjà, enfin, celles qui existaient, il y en avait
un peu
à l'époque, parce que la première fois qu'on est monté sur scène, on avait une demi-heure de show. Hein.
Il y avait déjà la petite fessée.
Chansons, voilà, il y avait déjà la petite fessée, il y avait Mademoiselle,
le
y avait
chant des sirènes, la chatte Candy.
Il y avait des chansons qui étaient quand même à caractère humoristique.
C'est ça, c'est que c'était votre,
c'est notre ADN, quoi.
Vous aviez laissé complètement tomber cette idée de trio 60s Motown, même si
mais
c'est
en même temps, ce qui était génial, justement, parce que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise expérience, c'est-à-dire que
exactement.
Ce qui est bien, c'est que ça a permis de savoir, parce que moi, j'avais écouté aussi les chansons et moi, j'avais pas non plus aimé, j'avais dit, là, c'est vous égarez, moi, j'étais pas encore dans le projet, mais en même temps ça te permet de savoir que c'est pas ça que tu veux faire du coup, donc il faut se rallier à une ADN et un truc
et
qui
puis ça te rappelle aussi parce que vraiment moi je sais que par exemple à ce moment-là j'avais pas envie de faire ces chansons 60s
et t'y allée quand même
et je l'avais dit mais j'y suis quand même allée et ça permet de se dire en fait quand on n'aime pas il faut pas y aller en fait à un moment donné on se travestit pas artistiquement pour y arriver en fait pour réussir.
Encore une fois, c'est l'importance de l'intention que tu mets derrière les choses. Si c'est
et
pour
la confiance
plaire,
en toi.
Et la confiance en soi, mais ça va avec en fait. Quand t'as confiance en toi, tu sais déjà entendre l'intention que tu mets derrière les choses. Et je pense que moi, clairement, en tout cas en ce qui me concerne, c'était vraiment. Bah attends, on peut
pas dire
un truc,
ça.
On peut pas dire non. On nous aime, on nous propose de nous aimer, mais vas-y, on y va quoi.
Il y a ce fameux truc de si tu t'inventes, enfin si tu rêves pas toi-même ta vie, en fait, quelqu'un va la faire à ta place.
En fait. Ouais. En général, ça marche pas quand c'est à ta place, puisque.
Et donc ce fameux soir-là, on n'y avait que nos amis et nos familles, et il se passe un truc un peu magique.
Alors, c'était pas la première fois qu'on montait sur scène. On était quand même déjà monté deux fois sur scène pour faire une ou deux chansons pendant des concerts que j'avais fait de mes chansons. Et moi, j'avais quand même remarqué quelque chose, j'avais décelé quelque chose, c'est que j'ai senti qu'on tenait quelque chose. Je sais pas comment le dire, mais je veux dire, c'était mon concert, je chantais mes chansons et j'avais une bonne réception, un bon retour. Mais je veux dire, on vient chanter deux chansons avec les Coquettes, j'en chante 15 toute seule. Et à la fin, on me dit « Ah, super ton concert !» Et les Coquettes, vachement bien. Hein. Putain, vachement bien, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui vient titiller les gens à un endroit. Je suis pas en train de me dévaloriser sur ce
non,
que je fais seul,
le
mais
le trio,
tu sens, les gens viennent pour te voir, mais et ils ont aimé, mais les Coquettes a suscité quelque chose. Ces jeux. Et moi, je le perçois, et vous aussi, les filles.
Oui,
on se dit, vraiment, il y a quelque chose avec les Coquettes. Alors qu'à ce moment-là, ça reste quand même un projet à côté du reste.
Oui, oui.
C'est vraiment en dilettante, quoi. C'est on se fait plaisir, quoi. On se fait plaisir.
Et donc, ce fameux soir, il y avait quand même une prod avec une grosse prod, très grosse prod, avec qui on travaillait. On avait déjà fait des comédies musicales.
On était d'ailleurs en production sur une comédie musicale à ce moment-là.
À une production.
Et on les a même pas invités. Hein. Ils viennent parce qu'ils entendent parler du truc, tu vois.
Mais on est d'accord, c'est JMD.
Non,
pas
non,
du tout.
Pas
du tout.
Et pas
non,
JMD.
On le connaissait même pas, Jean-Marc, à l'époque.
Okay.
Et donc, cette prod est là. Et en sortant, ils nous disent, OK, nous, on veut faire un truc avec vous. Et nous, on fait,
mais on a une demi-heure de show, les gars. Okay. Est-ce que vous êtes sûrs?
Donc, ils nous disent, bah voilà, on prend rendez-vous. Voilà, maintenant, vous allez travailler sur les Coquettes. Qu'est-ce que c'est, les Coquettes? Vous allez affiner et tout ça, machin. Et donc, nous, hyper contentes, voilà.
Je me rappelle, on sort des rendez-vous à chaque fois. On fait la rue digne. On arrive au bout de la rue. On fait, waouh, trop cool et tout.
Ouais. Non, mais c'était ouf. Tu vois, projet à 360, album, machin et tout. Et puis, ils nous disent, voilà, une fois qu'on est assez prête, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, on veut jouer au Ciné 13 chez Salomé
Lelouch. On veut aller sur scène.
C'est un ancien bordel, il y a 100 places, c'est génial, ça nous correspond bien. Ok. Une semaine avant, ils nous proposent un contrat qui nous engage pour la scène, les éditions et l'album.
Là.
Et on lit ce contrat et on fait mais...
Désillusion totale.
Pardon, excusez-moi, on ne gagne pas du tout d'argent avec ce contrat?
Si ça marche.
Si ça marche, comment ça se passe? On n'a pas de droit de mise en scène.
Ça devenait plus le nôtre.
Là, heureusement que t'as pas 20 ans. Et là, on se dit, OK.
Et heureusement que t'as un peu gagné de confiance en toi entre-temps.
Ouais.
Et là, on se dit, ben, on va pas signer.
Mais
vous
et on n'avait rien.
Vous êtes entouré à ce moment-là, vous faites lire le truc à
manager et
à
le truc. Mais ouais, on a quand même l'intuition, mais c'est surtout que c'est vrai que là où, c'est là où la confiance en soi, elle est importante, c'est qu'on s'apprête à dire non et on n'a rien. Et on se dit quand même que c'est le projet de notre vie, mais on a rien, personne pour nous aider.
Je te dis ça, on dormait pas.
Hein. Ah ouais.
On se disait, putain, on va dire non à cette prod, vraiment.
Qui fait ça? Qui fait ça? Genre, t'as un projet.
Et des gens qu'on connaissait et qu'on aimait et tout.
Qu'on
quoi.
Aimait. Alors, horrible. Moi, horrible. J'en étais malade. Parce qu'en plus, j'étais en même temps en production avec eux, donc je les croisais tous les jours. Et je me disais, purée, on va leur dire non, quoi. On va leur dire non, c'est horrible.
Ouais.
Alors que ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble et qu'on se développe et
tout
ça.
Mais en même temps, à eux de faire un contrat qui...
Non, mais
bien
vraiment,
sûr. Mais c'est vrai que notre avocate, à l'époque, nous a dit, vous savez, les filles, l'esclavage, c'est terminé depuis longtemps, hein. Donc, tu vois, c'est
si
pour
vous
dire,
même pas, vous pouvez vous acheter une pauvre chambre de bonne, quoi, franchement. Et nous, ça reste aussi notre métier. C'est-à-dire que si on gagne, ça marche, on veut que tout le monde gagne, c'est normal, quoi. Et donc, on se dit, on le fait pas, voilà. Et donc, on avait signé pour 6 lundis, donc on fait les 6 lundis avec eux, on se tape dans la main, merci, bisous, salut.
Non, on est encore un peu plus classe que ça. Comme on signe pas avec eux et qu'ils avaient.
Oui, on leur propose de racheter ce qu'ils avaient
investi. Un tout petit peu d'argent, on leur propose de les racheter et quand même, eux, classe. Ils nous disent non, on vous l'offre. On s'est pas mis d'accord, mais on avait qu'à signer le contrat avant, on vous l'offre. Donc, quand même classe.
Oui, oui.
Aussi de leur part. Et puis, ça reste des gens qu'on aime beaucoup. Ça l'a pas fait pour les Coquettes. Et c'est la vie.
Ouais. Faut pas insulter l'avenir.
Non. Exactement.
Non.
Exactement.
Et puis, on est quand même reconnaissante parce qu'en fait, sans ces 1 an ou ces 6 mois de travail, si tu veux, nous, on n'aurait pas. Il y avait quand même une carotte pour affiner notre projet aussi, tu vois. Donc, ça nous a quand même permis vachement de bosser.
Et puis, surtout, ça nous a permis d'avoir la confiance de se dire on n'a rien. Mais on a les Coquettes, on a quelque chose. Vas-y, on met nous de l'argent et on se reproduit Si lundi. Ouais. Au Ciné 13, nous, toutes seules avec nos petits sous-sous de côté, quoi.
Et on appelle une pote qui a une petite boîte de prod, qui nous héberge, parce que voilà, c'est des papiers, c'est des machins, et nous, on n'est pas du tout là-dedans, tu vois. Et on se retrouve à produire ces 6 dates en se disant, là, ok, là, on cherche des collaborateurs.
On fait venir des gens.
On va inviter des gens pour ça. Et là, évidemment, on se sert du réseau qu'on a croisé tout au long de notre parcours de comédienne et chanteuse.
Ah, on appelle tout le monde, hein,
On appelle tout le monde. Et là, voilà. La confiance, là, elle est reboostée fois 1000. On se dit, bah, c'est le moment, quoi.
Et donc,
On invite. Et on peut te raconter plus en détail les rencontres et tout qu'on fait, mais en gros, on se retrouve avec 3 propositions sur la table.
Ouais. On a demandé à l'univers, l'univers nous a dit vas-y, regarde, 1, 2, 3, vas-y, tu fais ton choix.
Il y avait vraiment une proposition très très théâtre, qui était très cool, mais voilà, il y avait une proposition très clairement
télé
et beaucoup d'argent, grosse prod, hein. Et il y avait la proposition de Jean-Marc.
Alors Jean-Marc Dumonté, pour expliquer aux gens, qui est l'un des plus gros producteurs de spectacles vivants à Paris.
Il possède des théâtres, il produit à Alex Lutz,
il produit des émissions de télévision, il produit Cantelou sur TF1. Ouais.
Il était sur Catherine et Liliane, enfin vraiment, c'est un gros producteur, quoi. Et
à ce moment-là, moi je suis enceinte. Ouais. Enceinte jusqu'aux yeux, je suis prête à accoucher. Et donc on fait des rendez-vous j'ai accouché l'été, donc juste avant l'été on fait des rendez-vous avec certaines personnes.
Avec deux, en fait la première prod de théâtre on l'écarte parce qu'en plus ils avaient besoin d'une réponse très rapidement et nous on a fait en fait on va pas répondre rapidement parce que ça vous convient, c'est notre avenir, donc si vous ne pouvez pas attendre, il y a pas de souci, on le comprend. Mais voilà, on va pas.
C'est vous qui reprenez le lead sur les négo.
Ouais. Et donc moi je dis les filles, je me sens pas capable de signer un contrat aussi important dans ma vie et dans notre vie, alors que je suis sur le point d'accoucher, laissez-moi accoucher. Quand je rentre, on fait ça, mais en plus j'avais une frayeur, je sais pas, j'avais peur, je me disais, c'est la première fois que je devenais maman, je me disais on sait jamais, et si mon enfant il a un problème, je peux pas m'engager sur, enfin je sais pas, j'avais peur. Et donc du coup j'ai dit on attend la rentrée.
Et avec Juliette, en fait, avant de partir en vacances, on va sur cette première grosse prod. Et là, en rendez-vous toutes les deux, et la fille est « Ouais, on va faire un partenariat avec Chanel, on va aller à l'Olympia, on va remplir l'Olympia. » Et moi, je me souviens, je lui dis « Mais remplir l'Olympia, en fait, si c'est pour le remplir d'invité, pour nous, ça nous intéresse pas. Encore une fois, c'est pas une question d'argent, mais quand tu remplis un Olympia avec des gens qui payent, ça reflète un succès, si tu veux. » Donc nous, on s'est dit, et elle nous parle, nanana. On rentre dans la voiture avec Juliette, et pendant 5 minutes, on parle pas, parce qu'on est un peu assommés. Et en fait, on se dit « Ok, là, en fait, c'est un coup de poker avec eux. Et attention, c'est peut-être de la poudre aux yeux. Mmh. C'est soit on fait un carton et ça lance, soit ça nous enterre.
Parce que dans
c'était
une
branche de cette grosse prod qui venait de se créer. Ils n'étaient pas encore complètement okay. implantés.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la personne qu'on a vu en rendez-vous à ce moment-là n'avait pas vu une minute de notre spectacle.
Elle l'avait vu un peu, mais en vidéo. Enfin, nous avait pas vraiment vu sur
scène. Elle savait pas ce que c'était que les coquettes. Donc, la meuf, elle nous dit Chanel, Olympia, le machin.
Ouais.
Tu te dis, attends, on parle d'un truc que t'as pas vu, quoi. Donc, ouais. Déjà, dans l'intuition, tu te dis, bon, il y a peut-être un truc qui.
Ouais. Mais encore une fois, heureusement que.
Mais par contre, une femme hyper implantée dans le métier, hyper forte, qui a développé des gens et des carrières. Donc, quand même, une confiance dans la parole de cette femme aussi,
carrément.
Quoi.
Et donc, après, on rentre et
on rentre de Corse
et tout, et il y a un mec qui s'appelle Nicolas Vital qui nous dit je vous ai vu
c'était déjà avant les vacances, hein.
Mais oui, Nicolas.
Non, la première partie de Bérangère.
Mais bien sûr, c'était avant les vacances.
J'étais enceinte, Marie.
Alors avant de partir en vacances, c'est un événement très,
alors,
très important.
Alors nous revenons en arrière.
Nicolas Vital, qui était venu nous voir au Ciné 13, nous dit Bérangère Krief, elle fait l'Olympia et on cherche une première partie. Mmh. Est-ce que vous pouvez faire une représentation au public au grand point virgule pour qu'elle puisse venir vous voir parce qu'elle vous a pas vu? Et nous, on fait oui, bien sûr, pas de problème.
Tu vois, tu imagines, t'es au Ciné 13 dans une salle de 100 places, t'as pas de prod, t'as autoproduit tes dates, t'as payé tes costumes, t'as appelé ta cousine couturière pour qu'elle te fasse des costumes, et tu te retrouves à devoir faire une représentation crash test pour Bérangère Krief pour faire sa première partie à l'Olympia.
L'Olympia.
Tu te Là,
la gestion du caca track, dessus, là, en termes de caca, on
là, les toilettes bouchées, il y en a eu quelques-uns, quoi, tu vois.
Et donc, on fait la représentation, et bien, Angèle vient dans la loge après. Elle dit, bah, franchement, j'ai adoré et tout. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire ma première partie? Et nous, on fait, oui, bien sûr, merci beaucoup, oui, on est hyper contente et ça. Elle se casse et on fait,
on se roule par terre dans la loge. Mais vraiment. Mais il y avait de la moquette dégueulasse, on n'en avait rien à faire.
Ah non, mais on
s'est roulé, quoi.
Tu te rends compte, enfin, c'était un truc de fou. Et là, on va à l'Olympia.
Là, on a vécu. Moi, je pense que c'est ma plus grosse émotion.
Ah ouais, moi aussi, c'est incroyable.
Encore à ce jour, c'est-à-dire qu'on passe du ciné 13 où c'était nos amis qui venaient nous voir et nos familles, à une salle où t'es à l'Olympia, une première partie où les gens ne viennent pas te voir et où ils ne te connaissent pas. Mais pas.
Et là, il y a les premiers rires.
S'ouvre.
Si je puis me permettre, ouais. le public de Bérangère et le public des Coquettes,
oui.
ça marche. Ça
on est oui, mais nous, on le perçoit pas encore vraiment.
Ah, vous
vraiment.
Le saviez pas. Okay,
non, pas vraiment.
On n'est pas conscient de ça. Et quand le rideau s'ouvre, on reçoit une vague d'amour, mais un truc.
Non, mais, c'est surtout, la première blague, ça rit. Putain, ça rit. Mais je voyais,
on se regardait comme ça, des petits coins en œil, genre, putain, les meufs, je crois que ça marche. Je crois que ça marche.
Il n'y avait pas nos mères dans la salle.
Et surtout, on finit notre première partie. On est assez contente de nous parce que vraiment, ça a fonctionné. Et puis nous, on n'est pas très implantés dans le métier. On ne connaît pas les codes,
les
us et coutumes. Et donc, on se dit, bah, on va aller voir Bérangère. Genre, on va dans la salle, quoi. On va voir le spectacle d'après. Et donc, on regarde son spectacle, on se marre, on la trouve évidemment merveilleuse. Et surtout, avec le recul, on n'oublie pas la chance qu'elle nous a donnée à ce moment-là. Et à la fin du spectacle, en fait, elle dit « je remercie ma première partie » et elle ouvre la main comme si on allait arriver sur le côté.
Et nous,
on est en train de la regarder sur scène et on ne sait pas.
Et on est dans la salle.
On est dans la salle. Et
elle
là,
dit « je remercie ma première partie, les
Coquettes. » Je te jure, il se passe un truc. C'est-à-dire qu'on est applaudi, mais un truc de malade. « Je remercie ma première partie, les Coquettes » et les gens hurlent.
Et nous on pleure.
On est dans la salle parce qu'en plus on est. Ah, je te jure, ça me fait des frissons.
Moi aussi.
On ressent le truc encore plus que si on était sur scène parce qu'on est dans la salle. Et on entend les gens et il y en a quelques-uns qui nous ont captés à côté et qui nous regardent et tout. Je te jure, encore aujourd'hui, ça me met des frissons parce que on s'attendait tellement pas à ça. Tu vois, quand tu vas faire une première partie, tu te dis bon bah les gens ils sont pas venus te voir. Si déjà t'es pas hué à la fin, c'est cool quoi. Depuis, on a appris que c'est pas ça,
un,
la première partie.
Il y en a un qui était dans la salle, c'était donc Jean-Marc, voilà, qui a quand même vu ça et je pense que lui nous découvrait vraiment là. Et donc à la rentrée, on se dit ok, Lola elle a accouché, on va faire deux rendez-vous. On retourne à l'autre prod, la grosse prod et enfin la grosse prod. Jean-Marc aussi est une grosse prod, mais c'était un autre créneau. Et on va voir Jean-Marc. Pareil, on arrive chez la grosse prod, Lola, qui n'avait pas pu faire garder son fils, qui arrive, qui allaitait. Enfin,
je suis en train d'allaiter, j'ai mon bébé de un mois et demi dans le porte-bébé, j'arrive au rendez-vous. Non, mais vraiment des loseuses, quoi.
Ouais, ouais.
Enfin, surtout moi.
Non, des femmes du 21e siècle.
Voilà, des femmes du 21e siècle qui galèrent avec leur mari qui sont arrivés en retard pour récupérer le gosse.
Et là, ils nous parlent pas d'artistique, en fait. Marketing, machin, et tout. Puis nous, on écoute et tout, putain. Et on se dit, ok, puis là, on va en rendez-vous avec Jean-Marc. Et il nous dit qu'est-ce que vous voulez en fait. Et nous on lui dit pas tout de suite en fait. C'était pas à ce premier rendez-vous qu'on lui verbalise nos trois souhaits. Mais lui il dit voilà, moi la stratégie que j'ai pour vous, c'est je vous mets votre spectacle, il l'avait pas encore vu en entier. Votre spectacle il est pas mal, mais moi ma stratégie c'est de vous mettre dans une salle, que vous travaillez votre spectacle. Et puis, quand on grossit, mais on commence en bas et voilà. Et on sort de ce rendez-vous et on lui dit quand même nous. On peut pas être produite par quelqu'un qui nous a pas vu et qui est pas complètement amoureux de nous quand même. Donc on
c'est
réorganise.
Pas ça, hein. Tu sais que tu te trompes.
Mais on a réorganisé une représentation pour Jean-Marc.
Ouais, mais on n'avait pas rencontré Jean-Marc. En fait, on avait rencontré ses équipes.
Jean-Marc, on l'a rencontré le jour où il est venu nous voir.
On avait dîné avec Amélie Brault et Nicolas Vital.
Oui.
Et c'est à eux qu'on a tenu ce discours-là, où on leur a dit, elles nous ont expliqué leur façon de travailler.
Pour la représentation première partie de Bérangère.
J'aime trop parce qu'il y a toujours plein de facettes aux histoires.
Mais c'est parce que c'est un peu vieux aussi. Hein.
Bien sûr.
C'est vieux, et on a vieilli, donc notre mémoire parfois nous joue des tours, Marie. Et donc, on organise une représentation, une dernière avant que je parte accoucher. Je suis enceinte jusqu'aux yeux.
Ah, ça, c'était encore avant que t'accouches qu'on avait la représentation
pour faire des flashbacks. Ouais. Mais ouais, c'était avant l'été, tout ça.
Ah,
ouais.
Putain, je m'en souviens.
Et donc, on fait une représentation pour lui. Et donc, équipes, c'est là qu'il dit, je veux vous proposer une production et tout ça. Et moi, je lui dis, oui, mais à la rentrée, parce que là, je pars accoucher. Et à la rentrée, on se voit. Et c'est là qu'il nous explique sa vision.
Et pendant l'été, quand même, on était au téléphone avec notre avocate qui, elle, était déjà en train de dealer le contrat de cette fameuse grosse prod. Et nous, on lui dit, écoute, puisque c'est un coup de poker, demande blindé de thunes. Demande à fond tout. elle nous rappelle, elle dit, écoutez, j'ai quasiment tout obtenu. Et nous, on se dit, merde.
Mais vraiment, genre un contrat de malade, c'est-à-dire je vais te donner un exemple, une paye. Tous les mois pour une exclu télé quoi on peut le dire hein, pour Canal Plus ça veut dire que toi t'es payé et puis on développe des programmes autour de toi et quoi qu'il arrive si le programme il se fait pas bah t'es payé donc tu prends pas beaucoup de risques en vrai un minimum garanti de date vraiment enfin
un beau contrat.
Tu te dis tu vas gagner de l'argent quoi.
Pour les gens qui savent pas, ça veut dire aussi que votre prod à ce moment-là il est en train de dire ok, je vais parier sur vous, je mise sur vous quoi.
Fois 1000 au niveau confiance quoi.
Après c'est un prod qui est complètement tout frais dans le métier. C'est-à-dire que c'est vraiment une
Énorme filiale. Boîte de prod, mais c'est une petite filiale.
Voilà, c'est une filiale qui commence, qui vient de se créer. Ils ont pas d'artistes, ils cherchent des artistes. Ouais. Ils ont une artiste.
Donc il y a pas de recul quoi.
Donc vraiment il y a pas de recul. On sait pas finalement. Tu sais dans ce métier-là quand tu t'apprêtes à signer avec quelqu'un, tu regardes l'historique, l'expérience et tout. Il y en a pas.
Nous on est pile poil le projet qui les intéresse aussi parce que c'est si tu veux c'est une boîte qui fait du disque, de la scène, de l'image, de la télé. Et ils sont en train de monter une filiale où ils veulent que toutes ces branches puissent travailler ensemble sur des projets communs. Et nous, on fait de la musique, de la scène, de l'humour. On peut potentiellement faire de la télé avec des sketchs. Et donc, on est pile poil le projet qui peut faire en sorte qu'il y ait aussi une fusion entre leurs différentes filiales.
Et donc, on se retrouve en rendez-vous avec Jean-Marc à la rentrée. Et donc, c'est vrai que là, il nous dit, donc qu'est-ce que vous voulez ? Nous, on lui dit, on veut beaucoup jouer. On veut faire l'Olympia et on veut gagner notre vie. Et lui, il dit, OK.
On n'a pas dit gagner notre vie.
On veut gagner beaucoup d'argent.
Au moins si s'acheter un appartement, si ça marche.
Voilà. Et donc, nous, on a toujours verbalisé nos rêves.
Ouais, c'est une bonne idée.
Et donc, il dit, OK, donc moi, votre spectacle, il est bien, mais il n'est pas encore génial. Donc, je vais vous mettre dans une petite salle. Vous allez bosser parce qu'en fait, ceux qui travaillent, ils ont une petite chance de réussir. Donc je vous laisse imaginer, il faut beaucoup travailler, faut développer votre spectacle, faut développer ce que vous parlez de cul machin. Moi j'ai envie que vous avez d'autres choses à dire aussi machin. Et donc on se dit OK, Jean-Marc lui et on lui dit nous en fait on veut pas que ce soit un coup, on veut que ce soit notre carrière. On veut perdurer. Et Jean-Marc il avait Cantelou qui il a depuis 11 ans, enfin c'était
Alex,
vraiment
17 ans et Alex ouais. Lux depuis 11
ouais,
ans.
Ouais, et donc voilà, et on se dit ça, et on se dit, OK, là, on a un coup, et on a quelqu'un qui nous parle artistique, en fait, qui nous dit, voilà, moi, je vais travailler avec vous le spectacle.
Vous avez plus de choses à dire que ce que vous croyez, vous êtes trois femmes, modernes, et tout ça, et c'est vrai que tout ça, c'était bien avant la révolution un peu féminine qui est en train de se passer, et il a été visionnaire sur ce coup-là, il nous a poussé à aller vers quelque chose de...
C'était 2014, c'est ça
2015. En fait, la première date qu'on a faite, c'était en 2014, mais on a signé avec lui en 2015.
Donc avant MeToo.
Rien avant MeToo.
Et donc, on lui a dit, voilà, on a choisi Jean-Marc et on lui a dit, en fait, nous, on aurait pu aller vers un gros contrat d'argent. Et
on
voilà.
lui a dit les propositions qu'on avait eues. Et il a dit, on a intérêt d'être à la hauteur.
Et on dit, nous...
J'ai halluciné, moi.
Et on a été vraiment amoureuses de ces équipes. Et ces équipes, ils étaient amoureux de nous, quoi. Enfin, vraiment, il y a eu une entente magnifique. On a grandi avec eux. Enfin, on a fait l'Olympia. On a joué 700 fois. Et on s'achète toutes des apparts. Donc, c'est cool.
Alors, des apparts, non.
On n'a pas acheté plusieurs. Mais... C'est ça, quand je dis des apparts, c'est chacune. On a pu réaliser un peu...
Tous les rêves ont été réalisés, personnellement. Vraiment.
Ouais, et puis on a grandi.
On a vécu des choses incroyables avec les coquettes. Enfin, je veux dire, on a fait notre Olympia.
Et le matin, quand t'arrives...
J'allais dire ça.
Oh là là.
Les fameuses lettres sur le...
Ah ouais.
C'est ça.
Mais parce que tu sais que ça va arriver. Mais t'arrives, en plus, ce jour-là, on n'arrive pas en même temps. Et moi, je raconte pour moi, mais j'arrive en bas du truc et je vois mon nom et je chiale comme merde.
Et ça, c'est grâce à qui, ça ? Hein ?
Ouais, parce qu'en fait, on parle de ça avant l'Olympia. Donc, on sait que l'Olympia, tu mets ton nom en lettres rouges, en lettres capitales.
Et donc, les filles disent...
Et nous, on dit, franchement, les coquettes, c'est les coquettes. On va pas mettre nos noms pour notre ego à la con.
Et moi, je leur dis, mais vous êtes des malades
mentales.
Non,
on dit même pas ça, Julie. Non, mais en tout cas,
moi, c'est ce que je ressentais. Je me disais, on va juste satisfaire notre ego. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Juliette Faucon, Marie Facundo, Lola Cess. C'est les coquettes et on doit mettre les coquettes.
Moi, je dis même pas ça. Moi, je me dis, on met les coquettes, mais sans rien.
Moi, je leur dis, mais vous êtes des malades mentales. C'est peut-être l'occasion unique de notre vie que nos parents viennent et voient nos noms sur la façade de l'Olympia, les meufs. En fait, là, c'est notre Olympia. On a le droit de se gâter, en fait. Ça va être notre moment. On y a droit, en fait. C'est pas une crise d'ego que de demander son nom sur l'Olympia. On fait l'Olympia. on a le droit de mettre notre nom dessus. Et j'insiste un peu. Et elle lâche.
Et quel bonheur.
Et quel bonheur. Franchement, ouais. Je dis la vérité, c'est vraiment peut-être de l'ego. Mais j'assume complètement. J'arrive devant l'Olympia et je vois mon nom. Et je sais que mes parents, ils vont venir.
Oui, il y a tout ce qu'il y a derrière. C'est, il y a l'ego et puis il y a te dire que tu rends fier ta famille, ouais. Que tu rassembles autour de toi. Il y avait la queue jusqu'à Opéra.
J'ai pleuré
fou,
en rentrant dans l'Olympia, un truc de malade. Tellement que nos équipes, elles sont venues me voir en me disant, ça va, Lola, ça a pas l'air d'aller, t'as eu un souci familial c'est ou génial. Un truc comme ça. J'ai dit non, j'arrive pas à m'en remettre, quoi. Je suis trop émue. C'est extraordinaire, quoi.
Voilà. Est-ce que tu trouves ça cool, cette anecdote sur les noms, parce que ça fait aussi ressortir vos individualités oui. Derrière le groupe, en fait. Oui. Et c'est une occasion de venir oui, de remettre en avant vous, en fait, oui. En tant qu'individu.
Ouais, mais
quoi.
Sur le premier spectacle, pardon, vas-y.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que justement, sur le premier spectacle, on a eu vachement à cœur de valoriser l'entité coquette. On n'a pas vraiment trop développé les individualités, ou plutôt vachement en surface. Ce qu'on voulait, et c'était qu'il y ait de l'équilibre, et souvent, les gens sortaient en nous disant, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes trois, et pourtant, il n'y en a aucune qui prend le lead vraiment. C'est hyper équilibré. Donc, dans cette optique-là, c'est vrai que, on s'est dit, c'est les coquettes, quoi.
On n'existait pas. On avait tout à construire avec ce projet. Donc, nous, on se disait, ce qu'il faut, c'est que les gens, ils retiennent les coquettes, bien sûr. Que ça existe. Et ben, après 700 dates, l'Olympia, deux tournées, on existe.
Oui.
Voilà. On existe dans le paysage artistique. Voilà, et donc, pour ce deuxième spectacle...
Oui, parce que vous sortez un nouveau spectacle.
Exactement.
Qui s'appelle Merci Francis.
Ouais.
On ne va pas spoiler pourquoi il s'appelle Merci Francis.
Non, on ne va pas.
Surtout pas. Il ne saura pas.
C'est drôle, pardon, parenthèse, mais il y a une femme qui nous a écrit il y a deux jours qui venait nous voir de Nantes et qui a dû partir avant la fin parce qu'on a eu un problème technique. On a commencé un peu en retard. Elle est partie avant la fin. Elle nous a envoyé un message. Elle nous a dit, s'il vous plaît, les filles, j'ai dû partir avant la fin. S'il vous plaît, dites-moi qui est Francis, sinon je ne le saurai jamais.
On lui a dit. Et donc, j'allais dire, dans ce deuxième spectacle, justement, parce qu'on a un peu réussi à faire exister les coquettes, on s'est autorisé à faire exister les individualités à l'intérieur de ça. Et ça donne un spectacle différent. Évidemment que l'entité coquette, elle est primordiale dans ce deuxième spectacle et elle est à 95% ce qu'on fait dans ce deuxième spectacle. Mais on s'est autorisé des chemins plus, on va dire... je sais pas comment.
Vous avez chacune un moment solo. J'ai pas souvenir que dans le premier spectacle, vous aviez chacune un moment solo. C'est ça, par exemple.
Il n'y en avait pas. Okay. Il n'y en avait pas. Mais même au-delà des passages solo, c'est-à-dire qu'on
Si, en fait, je dis ça, mais il y en avait. Hein.
Oui, il y avait le.
En fait, moi, je faisais un rap. Toi, tu faisais une chanson.
Oui.
Et Marie aussi.
Sauf que c'était des passages solo qui n'étaient pas. Si tu veux, c'était pas un passage solo. C'était un passage. Où on était dans le défi et la compétition, où Lola elle faisait un truc et moi je disais moi je peux faire mieux et Juliette elle disait moi je peux faire mieux. Donc c'était dans
on
un
était
bloc
quand même
et il y avait aucun
moments.
Propos, c'était un truc de compète de je vais faire mieux que celle d'avant.
Là on fait un passage solo mais on livre
les autres sortent de la enfin
oui.
Dans ce spectacle.
Mais au-delà de sortir de parce que les autres pourraient rester, c'est pas ça qui caractérise ce qui caractérise nos passages solo, c'est qu'ils sont personnels. On n'est pas dans un propos commun. On est chacune dans un bout de notre histoire. Voilà. Et c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'on s'autorise à mettre de chacune de nous des choses qui sont plus personnelles plutôt que dans un propos commun. Dans le premier spectacle, on se disait, on va parler des choses sur lesquelles on est d'accord. Dans ce deuxième spectacle, on s'autorise le droit de parler d'un sujet sur lequel on n'est pas d'accord.
Et pourtant, ça nourrit le projet commun.
C'est-à-dire que moi, je pourrais pas chanter la chanson de Lola. Elle pourrait pas faire mon passage des belles-mères et qu'on pourrait pas faire le truc de Juliette. En fait, c'est vraiment le vécu de chacune. On est vraiment parti de nous. Et ça, c'est la grosse différence avec le premier spectacle aussi.
Mais ça marche bien, en fait, parce que ça permet au contraire de creuser.
Et
de donner de la profondeur au groupe.
Ouais.
En vrai,
exactement. Oui, ça nourrit le groupe vachement, en fait.
Et puis, ça montre aussi qu'on a grandi et vieilli. C'est qu'on a justement, finalement, le propos de ce podcast sera peut-être la confiance. On a gagné suffisamment en confiance pour accepter aussi de se livrer plus intimement, plus personnellement. Et
sans avoir peur d'enlever quelque chose au groupe ou à l'autre, en fait.
Au contraire.
Alors moi, ce que j'ai trouvé fabuleux, bon, pas que ça, mais vraiment, j'ai adoré votre chose, c'était cool. Mais il y a vraiment tout un passage où vous faites une chanson sur le clito. Ouais. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est C'était impossible en 2015, en fait. Tu vois, pour moi, il y a.
Mais c'était impossible parce qu'on savait même pas à quoi il ressemblait. C'est vrai.
Bien
les
sûr.
Études. Mais pourquoi pour toi c'était impossible en 2015?
Bah, en fait, pour moi, enfin, alors, de mon point de vue, en plus de fondateur de Mademoiselle, on a beaucoup parlé de sexualité, etc. C'était un truc où c'était pas dans les manuels scolaires. C'était un truc où, en fait, c'était l'intimité des femmes, c'était la sexualité des femmes, fallait pas en parler, etc. Et c'est fou à quel point, et notamment par rapport à l'histoire de l'humanité, quoi, tu vois. Oui. Ces 5, 6, 7 dernières années, le sujet a explosé au point que vous en sortiez, vous, dans ouais. votre spectacle, une chanson où vous avez, je spoil pas, mais une petite pancarte et tout. Je suis là, qu'est-ce qui est en train de se passer sur scène? C'est complètement dingue. Et tant mieux.
Parce que, en fait,
alors, pour pas vous mentir, j'avais deux personnes qui étaient assez âgées à côté de moi, qui étaient là. Oh
elles étaient choquées.
Amusé. Mais il y a un petit côté
dis donc
c'est nouveau dis donc enfin tu vois vraiment
mais
ce
oui
truc
mais parce
de...
que je pense que
c'est comme
que
le monde
j'allais te dire en fait on s'intéresse au clitoris mais les femmes s'intéressent à ça aussi parce qu'en fait même nous alors que ça fait partie de notre anatomie on n'était pas du tout calé sur le sujet quoi je veux dire moi il y a quelques années je pouvais pas te dessiner un clitoris je pouvais pas te dire ce que c'est que la vulve ce que c'est que le vagin alors que je pouvais te dire où sont les testicules chez un homme et où est son gland quoi tu vois donc il y avait quand même un problème sur le sujet
et puis ça ouvre des discussions aussi nous moi je sais que dans ma famille par exemple avec ma mère
moi aussi j'ai fait
ma mère elle m'a dit mais tu sais moi je crois que j'avais peut-être 30 ans quand j'ai découvert l'existence du clitoris.
Ma mère,
c'est quand même ouf.
Tu te rappelles, on était ensemble. On lui a demandé de dessiner un clitoris, elle en a pas été capable.
Ouais, je m'en souviens.
Toi aussi, t'étais là. Elle a dessiné, tu sais, genre, elle a fait.
Elle a dessiné une vulve, sans doute.
Ouais, voilà, un trait et deux parenthèses sur le côté, quoi. Une petite pêche. Je dis, bah non, maman, c'est pas du tout ça. Ah bon? Ah bon?
Et en même temps, nous aussi, enfin, franchement, moi, vraiment, avec ça que j'ai appris à quoi ça ressemblait. Et aussi, l'histoire de l'orgasme vaginal ou clitoridien, c'est une certaine Hélène, je n'ai plus son nom, pardon, et tu le remettras, mais qui a fait une étude, une Canadienne, qui a fait une étude là-dessus et qui dit, en fait, il n'y a pas d'orgasme vaginal. Il n'y a qu'un orgasme clitoridien. En tout cas, physiologiquement, tout est clitoridien.
Je suis hyper déçue, Juliette, parce que normalement, quand il s'agit des noms, t'es hyper forte.
Bah, ouais, je sais. Ouais. Ah, écoute, j'ai son prénom, elle s'appelle Hélène.
Mais après, j'ai tout le monde. Alors franchement, moi je n'avais même pas le prénom. En tout cas, on se régale. Nous, on a eu envie de parler du clitoris parce que ça nous a sauté au visage que c'était un sujet important puisque nous-mêmes on était vraiment
on en a un, tu vois,
nul. Donc, on en a un. Et on s'est dit comment on va pouvoir le traiter en fait. Et vraiment, on a eu envie d'aller dans la glorification absolue du clitoris.
Ouais, et puis on s'est dit aussi, on a fait aussi de la comédie musicale et c'est l'occasion de mettre
un tableau
et d'ailleurs tu vois notre rêve si demain on fait une grosse salle ou que on fait une vidéo machin c'est de pouvoir sur ce tableau faire peut-être venir des danseuses d'être 40 et de faire un énorme truc sur le clitoris avec des lâchers de paillettes et tout ça enfin tu vois de faire quelque
plein
chose
de clitoris danseurs et des danseuses déguisées en clitoris
invasion de clitoris
Et ça, ça nous fait marrer, quoi.
Et c'est aussi votre cheminement perso, c'est ça? Vous dites, depuis le premier spectacle, vous avez aussi cheminé, vous, sur toutes les questions globales de féminisme.
On a appris beaucoup de choses. En fait, on s'est rendu compte qu'on était aussi ignorante de plein de trucs. Et donc, avec toutes ces dernières années, la révolution féministe qui s'est passée, nous aussi, en tant que femmes, tu affûtes ta pensée, tu apprends des choses. Et du coup, tu peux pas ne pas en parler. En tout cas, nous, on construit aussi.
Tu pourrais en tant qu'artiste, mais j'ai la sensation que ça vous a tellement animé et que ça vous a tellement.
Et puis en plus, nous dans les coquettes, on raconte vraiment que de choses qui émanent de nos vies. Parce qu'on a nos prénoms dans le spectacle, c'est pas des personnages.
C'est du dimanche soir, par exemple.
Exactement.
Voilà.
Une grande pratique. On est assez fan, on va pas se mentir. Ouais, on peut pas, on fabrique pas de sujets. C'est vraiment que des sujets qui nous parlent, qui nous tiennent à cœur, des sujets sur lesquels on a échangé. Et donc, ça nous paraît pas possible de passer à côté de ça, puisque on en parle tout le temps.
Vas-y. Et puis aussi, c'est vrai que pour ce deuxième spectacle, comme on a un peu vieilli et qu'on a vécu plein de choses, on a aussi déconstruit des choses.
On est des vieilles rompies avec Jack de la maturité, quoi.
Non, mais c'est vrai, tu vois, il y a un passage où on parle de l'injonction au bonheur et c'est vraiment un truc on est en plein dedans à déconstruire ce phénomène de notre génération où nous, tout ce qu'on a appris, tout ce que nos parents ont voulu pour nous, c'est qu'on soit heureux. Et en fait, quand t'es pas bien, tu gères pas ça.
T'as l'impression
d'être tout
une
autour de
merde.
Nous, le nombre de gens de notre âge, de filles et de mecs qui sont chez le psy ou qui cherchent par tous les moyens de développement personnel qui existent, et Dieu sait qu'en ce moment, c'est à la mode et il y en a mille, à savoir comment être heureux ou à savoir juste comment gérer le fait d'être malheureux parce que la vie, t'es pas tout le temps heureux, quoi. Et voilà, c'est ça. En tout cas, ça, c'est une des choses qu'on essaye de déconstruire encore et qu'on livre. Mais on donne pas de marche à suivre. On dit juste, voilà, nous, ce qu'on en a tiré, ce qu'on vit, et faites-en ce que vous voulez, quoi.
Et Marie, tu parles de... Toi, ta chanson perso, c'est sur le fait que t'es belle-mère aussi.
Ouais.
Et je trouve que c'est très cool parce que c'est un sujet qui est en train de sortir. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, etc., de ce statut particulier.
Ouais, parce que les familles recomposées...
C'est une sur deux.
Voilà.
Hein, c'est
vraiment... Alors moi, c'est pas une chanson, c'est un texte. J'avais vraiment envie de faire un texte. Et oui, j'avais envie de parler de ça parce que déjà, c'est ce que je vivais. Ça me tenait vraiment à cœur. Et puis parce que je me suis rendu compte qu'on n'en parlait pas beaucoup des beaux-parents. Et encore moins en humour. J'avais envie de prendre la parole pour eux et aussi d'envoyer un message d'amour. C'était très très important pour moi. Et de dire, on peut être beaux-parents et aimer ces enfants-là qui ne sont pas les nôtres. Et aussi, j'ai une copine hier, elle m'a dit, ça m'a vachement touchée parce que je suis belle-mère et ces derniers temps, ça allait pas trop avec mon mec. Je lui dis, par rapport à ta belle-fille, elle me dit non, entre nous. Et je lui dis, tu sais, faut que toujours que tu gardes dans un coin de ta tête que c'est vraiment de l'amour gratuit que tu donnes. Si ça se passe bien avec.
Ouais, même si c'est toujours gratuit quand on donne de l'amour à des enfants.
Oui, mais ce que je disais à Lola hier, c'est parce qu'elle me disait, on avait cette discussion, et je disais, oui, mais quand tes parents, c'est le sens. C'est acté, quoi.
Oui.
Je veux dire, t'auras beau te disputer avec tes enfants et tout, machin, mais il y a toujours ce lien. Et puis, t'as des droits. Si tu te sépares de ton conjoint, qui va prendre la garde des enfants, machin. Quand t'es beau-parent, tu n'as pas de droits. Enfin, c'est comme ça, tu n'es pas le parent.
Et donc, c'est en ça que c'est gratuit, c'est vrai. C'est que tu as toujours le risque qu'un jour, tout s'arrête.
Oui. Donc, mais c'est ça qui est très beau aussi. Parce que quand tu te rends compte de ça, tu en sors grandi. Et en plus, moi, je me suis séparée. Donc, je me disais, est-ce que je vais être capable de parler de ce passage?
Ouais, c'est génial.
Est-ce que je vais être capable de dire, peut-être qu'un jour, on se reverra plus? Je me disais, je suis pas sûre d'en être capable. Et en fait, j'avais vraiment envie de parler de ça. Ça me tenait vraiment à cœur.
Oui, puis une histoire qui s'arrête, c'est pas forcément une histoire qui s'arrête, quoi.
Oui, bien sûr,
c'est
sûr. C'est vrai. Quand il y a les liens, après, ça dépend de l'âge des enfants. Sûr. Et j'ai bien conscience qu'il y a des gens, le sujet ne leur parle pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'au moins...
De toute façon, on peut pas parler à tout le monde.
Il y a parler aux parents parce qu'ils se disent, si demain on se sépare, alors
peut-être que cette situation,
ça peut parler aux gens.
Et puis je vois bien que quand je dis si avec mon mec, parfois j'ai des angoisses, si avec mon mec on se sépare, mais comment on va faire pour la garde? Je vois que les gens, ils se disent, ça m'était pas parvenu.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi
beau,
à ça
quoi.
Que vous servez, c'est que ça permet, en tant qu'artiste, d'envoyer des petites inceptions, des petites graines dans la tête.
En tout cas, nous, on essaye d'envoyer des petites graines sans jamais se dire qu'on détient la vérité.
Ah oui,
parce que c'est surtout, nous, on se pose beaucoup de questions plus qu'on a les réponses. Donc, on essaye d'envoyer nos questions, nos questionnements aux gens pour qu'eux-mêmes cherchent leurs propres réponses.
Ça se sent, franchement. Enfin, depuis les gradins. Bon, c'est très cool. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un truc dont vous auriez aimé parler?
J'aurais bien aimé qu'on reparle éventuellement de l'histoire des toilettes du casino.
Non, mais parce que tout à l'heure, je voulais dire un truc aussi. Tu vois, quand on... Super. Je passe très vite à autre chose parce que c'est inintéressant, quoi, vraiment. Non, mais...
Elle l'a dit.
Et elle est contente,
là.
Tu vois.
Elle
rigole de sa blague. Elle est super.
Dépêche-toi de parler parce que personnellement, en parlant de toilettes, j'ai très envie de faire pipi.
D'accord.
Donc, si
non, mais je voulais aussi dire, tu vois, quand on parle de la sodomie.
Oui, c'est vrai.
Non, mais parce que, en fait, peut-être que sur le premier spectacle, on se serait pas autorisé à le faire. Et en fait, quand trois femmes d'un seul coup parlent de la sodomie sur scène, au-delà du fait qu'on parle de la sodomie, ça dit quelque chose. Ça dit trois femmes qui ont entre 30 et 40, on va pas préciser exactement l'âge.
La prochaine déconstruction pour vous, c'est votre âge.
Ouais, voilà,
je pense que tu as raison.
Le temps qui passe.
J'ai 36 ans, ça y est, j'ai passé, tu vois, cette étape très rapidement, finalement. Et en fait, voilà, ça dit quelque chose. Ça dit qu'aujourd'hui, trois femmes qui sont sur scène, elles peuvent dire, moi j'aime bien la sodomie, moi j'aime moyen, moi j'aime pas du tout. Et ça donne une liberté, en fait.
C'est malgré nous parce que ça devient militant. Souvent, on nous dit, mais votre deuxième spectacle, il est vachement plus engagé. Et en fait, les gens placent l'engagement dans le fait de parler de choses qui sont tabous ou qui sont pas convenus. Bah, parce que trois nanas qui parlent de sodomie, c'est pas convenu.
Oui, ah, c'est bah, je te remercie. Parce que moi, je pense que c'est plus politique.
Je dirais que c'est politique parce que vous avez aucune volonté d'être militante, comme
pas
vous le dites.
Pas du tout.
Exactement.
Mais, on parle de choses
en fait,
vit
les gens confondent un peu. Mais pour moi, au contraire, de venir parler de clitoris, de venir parler de, du statut de belle-mère, de venir parler de sodomie, c'est des sujets qui sont infiniment politiques aujourd'hui.
Oui, après, on pourrait en parler pendant des heures. Évidemment, tout est politique aujourd'hui.
Bien sûr.
Selon moi.
Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour.
Merci à toi, c'était très
cool. Merci à toi, c'est bien d'avoir le temps.
Plaisir. Hein. C'est un peu le concept du podcast.
On revient quand tu veux parler de toilettes.
Voilà, tu vois, on va garder.
Quel titre va avoir cet épisode ?
Je te promets que ce ne sera pas.
Marie dans les toilettes.
Mais non, mais en fait, les coquettes qui se sont découvertes grâce à un chiotte bouché.
Les coquettes et les toilettes.
Tu vois,
putain,
ça va bien avec. Ça rime.
C'est tellement glamour.
C'est comme les martines. Les martines à la plage, les coquettes aux toilettes.
Merci beaucoup les filles,
c'était cool. Merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.